La fabrique politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble 90.8. Bienvenue dans La fabrique politique, l'émission qui raconte les arcanes des pouvoirs publics, l'émission qui tente de démonter la grande machine à fabriquer notre monde commun pour en expliquer les rouages. Lors des premières émissions, on a tenté de décrypter les coulisses de l'hébergement d'urgence en France, en compagnie de la directrice du SAMU social de Paris, Christine Aconde. Ensuite, on a vécu une plongée dans la prise en charge républicaine des attentats, avec Constance Rivière, qui était à l'époque directrice adjointe du cabinet de François Hollande. Aujourd'hui, nouveau changement radical de décor, on traverse l'Atlantique et on rejoint Washington pour étudier un objet étrange et source de multiples fantasmes. Non, ce n'est pas le cerveau de Donald Trump, c'est le Fonds monétaire international, le FMI.
Réunion des pays les plus endettés d'Amérique latine qui s'interrogent sur les moyens de rembourser leurs créances qui atteignent des sommes astronomiques. Dettes qui, si elles restaient impayées, pourraient avoir des répercussions sur l'ensemble des économies mondiales. Le commentaire de Christian Marimonneau.
Le président colombien a ouvert la conférence en invitant les 11 pays à accepter de payer leurs dettes et souhaiter une autre attitude des pays industrialisés. Les 11 pays latino-américains totalisent la moitié de la dette mondiale, soit près de 2800 milliards de francs. Le Brésil, le plus endetté, ne refuse pas de payer, même chose pour le Mexique. En revanche, la Bolivie ne payera pas. Quant à la nouvelle démocratie argentine, elle s'oppose toujours au FMI. Sans ce FMI, c'est tout le système monétaire qui s'écroulerait. Même si ses méthodes peuvent être critiquées, il reste le garde-fou de l'économie mondiale. Les banques américaines ne sont pas trop inquiètes, elles ont fait pression pour convaincre leurs débiteurs d'être raisonnables dans l'intérêt de tous, mais surtout des banques. Quant aux populations, elles restent silencieuses, leur horizon restera toujours la pauvreté au pied de ces édifices bancaires.
Alors c'est quoi cette chose? Comment fonctionne le FMI? À quoi il sert? Qui décide de quoi? Est-ce un simple bras armé de quelques grandes puissances capitalistes? Ou est-ce plus compliqué que cela? Bref, un bel objet de décryptage. On parle de tout cela tout de suite avec Delphine Prady, économiste au FMI. On est avec elle en direct de Washington, où il est 6h de moins. Bonjour Delphine Prady.
Bonjour Mathieu Angotti.
Merci d'accepter de répondre à nos questions. La première, très simple, tout bêtement, qui a créé le FMI et pourquoi?
Alors, le FMI a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale, en fait. Ouais. Il y a eu une grande conférence qui s'appelle la conférence de Bretton Woods en 1944, qui a réuni 45 nations. Et sous le haut patronage d'un grand économiste que tout le monde connaît bien, qui est Keynes. Et l'idée, en fait, de la conférence, au sortir de la guerre, c'était de se dire qu'est-ce qui a mené à cette guerre dévastatrice et comment est-ce qu'on peut essayer à l'avenir de prévenir que de telles causes reviennent et produisent une nouvelle guerre totalitaire et destructrice telle qu'on venait à peine d'en sortir.
C'était vraiment dit comme ça, c'était vraiment un projet pacifiste quoi, au départ.
Ouais, c'était vraiment l'idée. L'idée, c'était de se dire que la crise de 1929 et ses conséquences ensuite désastreuses, à la fois économiques et sociales, planétaires, parce que c'était quand même une crise globale, dès les années 30, avait mené au populisme, puis au totalitarisme, qui ont bien sûr des causes plus complexes que
mais il y avait des causes économiques.
Ça avait pu servir de catalyseur.
D'accord. Et alors les 45 pays en question, grosso modo, c'était les pays occidentaux ou c'était déjà à l'époque plus large que ça?
Alors, c'était un petit peu plus large que ça, mais typiquement, c'était des pays occidentaux, avec à la manœuvre les États-Unis, déjà, évidemment. Et j'ai dit qu'il y avait 45 pays, et à la fin, il y avait 44 signataires. Je crois que le Danemark est resté observateur.
D'accord. Mais depuis, j'imagine que des pays n'ont cessé d'entrer dedans et que le FMI s'est agrandi. Aujourd'hui, on est à peu près à quelle dimension ?
Aujourd'hui, on a 189 membres.
Ah oui, c'est
donc
ça.
c'est, je crois, 4 de moins que les Nations Unies. Donc c'est quasiment une couverture universelle des pays mondiaux.
D'accord. Et alors, quand donc, on dit qu'un pays adhère, ça veut dire qu'il, j'imagine, il signe une charte d'adhésion, il se met à payer aussi pour les familles. Comment ça se passe quand un pays est adhérent?
Ben, on peut considérer le FMI comme une sorte de banque coopérative.
D'accord.
Donc quand un pays adhère, effectivement, il doit payer un quota. Son quota, c'est sa part, c'est sa share, comme on dit en bon anglais. Le quota qui lui est assigné, il lui a été assigné selon une formule qui est assez transparente, mais qui, grosso modo, donne du poids à son poids et relatif économique dans le monde.
C'est lié au PIB ou un truc comme ça ou...
Voilà, c'est ça. Okay. C'est lié au produit intérieur brut, mais pas que.
C'est pas que les plus riches payent plus
Alors, les plus riches payent plus. En gros, le budget du fonds, c'est 60% les économies avancées, 40% les pays émergents et en voie de développement.
D'accord.
C'est à peu près ça le partage du budget du fonds.
D'accord. Et les liens entre le FMI et avec les États, là, pour donner un peu, essayer de voir qui se cache derrière, c'est qui se parle finalement? C'est juste le patron du FMI avec les présidents ou les premiers ministres? Ça se passe plutôt au niveau des ministères des Affaires étrangères? Ça se passe plutôt au niveau des ministères de l'économie? C'est finalement les interlocuteurs du FMI dans les pays qui sont adhérents, ça se situe à quel niveau?
Alors, il n'y a personne qui se cache déjà. au FMI, il y a une grande culture de la transparence et une grande valorisation de la transparence. Donc, c'est un premier point, même si, évidemment, comme toute structure complexe, ça n'apparaît pas transparent de prime abord. On n'interagit pas du tout avec les ministères des Affaires étrangères. Les interlocuteurs et la branche législative, on va dire, du FMI, c'est les ministres des Finances.
Des Finances.
Et les gouverneurs, ouais. Et les gouverneurs de banques centrales.
Donc ça se passe plutôt dans l'univers de la finance, si on pense par exemple à l'exemple
finance
français.
Finance et économie, oui.
Ça veut dire qu'ici, ça sera le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui est plutôt le...
C'est
et
ça.
Puis son ministère qui sont en lien avec le FMI, c'est ça?
Exactement.
Et au niveau européen, ça sera quoi, la Banque Centrale Européenne?
Ce sera la Banque Centrale.
D'accord.
Ce sera la Banque Centrale, effectivement, et puis le commissaire ou la commissaire... En charge des finances, mais ce sera la Banque centrale.
D'accord.
Exactement.
Et avec les autres organisations, avec les autres organisations internationales, avec l'ONU, avec la Banque mondiale, là aussi il y a des relations. Essayer de voir à peu près qui se parle. Finalement, c'est des organisations qui se parlent régulièrement ou qui sont chacune un peu dans leur domaine.
Alors, la Banque mondiale, elle a été créée exactement en même temps que le FMI.
Ouais.
Et les mandats étaient distincts et complémentaires. Donc le mandat du FMI, c'était d'assurer la stabilité financière globale.
Okay.
Et le mandat de la Banque mondiale est un mandat plus d'ingénierie, d'aide et de coopération et de développement des gouvernements, avec comme mandat de lutter contre la pauvreté et de lutter contre les inégalités. Donc il y avait un bras...
Régulation
monétaire et financier qui est celui du fonds, et le bras ingénierie un peu et tuyauterie structurelle et budgétaire, et puis ensuite, et concrètement, de construire des écoles aussi. Hein, c'est aussi...
financer des programmes, finalement.
Et de financer des programmes, qui est celui de la Banque mondiale.
D'accord.
Donc, c'est deux institutions sœurs. Elles sont nées en même temps et on se parle
très
tout le temps, en fait.
Okay. Okay.
Clairement, tout le temps.
Okay.
Et avec l'ONU, on est sous le patronage de l'ONU, mais on n'est pas une institution onusienne.
Mais patronage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent quand même donner des directives?
Non, ça veut dire que le directeur actuel, enfin le secrétaire général actuel de l'ONU est primus inter pares au sein du fonds, mais il ne peut pas donner de directive au fonds.
Le primus fonds inter pares, ça veut dire quoi en gros ?
Ça veut dire que c'est un des membres.
D'accord.
Enfin, c'est un des... Ouais, c'est, il en...
Il peut donner des orientations, mais il ne peut pas donner des ordres.
Ou en tout cas, il peut participer, mais il ne peut, peut pas donner de directives au fonds monétaire.
Et finalement,
c'est une institution cousine, quoi.
D'accord. Et ok. Si on rentre maintenant dans la machine FMI, qui travaille au FMI ? C'est quoi les métiers, finalement ? Alors, vous êtes économiste, mais les grands métiers qu'on trouve au sein du FMI, ça ressemble à quoi ?
Déjà, pour donner une idée de la taille, il y a 2700 employés. Au fonds monétaire, il y a à peu près 150 nationalités qui sont employées.
Pas toutes à Washington, j'imagine
Non, pas toutes à Washington, mais une grosse partie à Washington, parce qu'une grosse partie du travail se fait à Washington. Mais il y a évidemment des employés qui sont employés dans les pays, notamment les pays dans lesquels le fonds monétaire intervient sous la forme de programme.
D'accord.
Au sein du FMI, il y a plusieurs fonctions. Il y a des fonctions qu'on peut voir à travers les départements du FMI. Il y a des départements fonctionnels. Moi, j'appartiens à un département et je travaille dans un département fonctionnel qui est celui des affaires budgétaires.
Okay.
Mais il y a aussi d'autres fonctions comme la recherche.
Et alors, département fonctionnel, derrière ce terme, qu'est-ce qui se cache ? Finalement, quand on est dans un département fonctionnel, on fait des études, on fait des préconisations, on accompagne des pays. Qu'est-ce qu'on fait exactement ?
Alors, ceux qui accompagnent les pays, ce sont ceux qui sont dans les départements géographiques.
Géographiques,
donc,
ok.
Voilà, donc le globe est divisé en plusieurs régions. Donc là, il y a la région Europe, la région Asie, Asie-Pacifique, la région Afrique, la région Amérique et Caraïbes, par exemple.
D'accord.
Et à l'intérieur de ces départements, il y a des équipes pays. Et ce sont aux équipes pays de suivre chacun des pays membres.
Des programmes.
Moi, mon travail, il est plus transversal.
Okay.
Donc, j'ai un travail analytique et un travail de support, en fait,
des équipes qui interviennent sur
exactement, les pays.
D'accord, ouais.
Sur les questions budgétaires. Et moi, plus précisément, sur les questions de dépenses budgétaires.
On y reviendra tout à l'heure. Une petite question avant de faire une première pause. Finalement, donc, vous savez, le thème de l'émission, c'est de savoir un peu qui fait quoi. Au FMI, qui prend les décisions, finalement ? Qui a de l'influence ? Donc, vous avez donné un aperçu de relations entre le FMI et les sphères de la finance à travers les ministres des finances des pays, à travers les banques. Vous avez aussi mentionné le lien avec l'ONU, mais qui est un lien de patronage sans donner des ordres. Finalement, c'est une institution que vous diriez qu'elle est complètement autonome, où il y a quand même des influences et des décisions qui se prennent en fonction d'injonctions qui arrivent de telle ou telle sphère. Comment ça se passe, la prise de décision ?
Il y a vraiment cette dichotomie entre une sorte de législatif et d'exécutif. L'exécutif, c'est le management du FMI. Donc, aujourd'hui, on connaît Christine Lagarde avec ses députés et son staff.
Donc, ça, c'est l'équipe qui dirige le FMI. Donc, c'est Christine Lagarde
c'est
aujourd'hui.
C'est l'équipe qui dirige le FMI et qui est en lien avec les pays. Donc, je parlais des équipes pays. Et elle propose. Elle propose à qui ? Elle propose à un board de directeurs exécutifs.
Un sorte de conseil d'administration, on va dire.
C'est ça.
Ouais.
Qui sont, eux, les délégataires, en fait, du pouvoir des gouverneurs, que j'ai appelés tout à l'heure, et qui sont, en fait, les gouverneurs sont les ministres des Finances et les directeurs de banques centrales.
Donc là, Christine Lagarde et son équipe, elle propose des actions à un conseil d'administration qui représente les pays membres, en fait.
C'est ça, d'accord. Exactement.
Mais alors, ils sont tous là ? Il y a 189 administrateurs ?
Non, c'est disons qu'à 189, ça ressemblerait vraiment à l'ONU, là, pour le coup.
j'ai cru que vous alliez dire ça ressemblerait à rien. Non, ça ressemblerait à l'ONU. C'est tout à fait différent.
Non, ça ressemblerait à l'ONU. Et donc, du coup, Il y a une sorte de regroupement qui se fait.
D'accord.
Donc les plus gros bailleurs comme les États-Unis par exemple ou l'Allemagne
sont là.
Ou la France ou l'Angleterre sont là individuellement, à titre individuel, et donc ont une chaise. Mais d'autres pays sont regroupés ensemble et en chaise avec des directions qui tournent.
Okay.
Donc, du coup, il n'y a pas 189 personnes au conseil d'administration. Il y en a 24.
Donc ça, c'est l'exécutif. Et vous parliez d'un pouvoir législatif, ça. Qu'est-ce que vous entendez par
ça? C'est le pouvoir plutôt législatif. D'accord, justement. C'est celui qui va dire...
qu'est-ce
qui
qu'on
va regarder, en fait, la proposition.
Voilà,
pas la proposition, mais le projet de loi porté par le management,
d'accord,
on va dire.
Et après, l'exécutif, il va exécuter ce qui a été décidé par le conseil d'administration.
Exactement.
Ok, d'accord. Donc, ouais, c'est cet organe législatif avec des représentations variées selon si on est des gros contributeurs ou des petits, on se regroupe, devant lequel, finalement, la direction et l'équipe de direction du FMI rendent compte et proposent des choses. D'accord.
Exactement.
Ok, on va faire une petite pause musicale avec une chanson de Girls in Hawaii, qui est un groupe qui va passer en concert à Grenoble à la Belle Électrique dans quelques semaines. La chanson s'appelle Organeum. On se retrouve juste après. It's always strange the way I feel when I'm looking back on things. We've been lucky, maybe, who knows? Or have we just made some good choice?
Just by your side. And I-
On est de retour dans la fabrique politique sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, on parle du Fonds monétaire international avec Delphine Prady, qui est en direct de Washington et qui est économiste au FMI. J'ai oublié une question au passage tout à l'heure. Pourquoi autant de Français au FMI? Pourquoi il y a eu, sauf erreur, au moins trois directeurs du FMI ces dernières décennies qui étaient Français? Il y a un truc particulier avec la France ou comment ça se passe?
C'est qu'on doit faire quelque chose de pas mal.
C'est ça. Non, il n'y a pas d'histoire particulière au moment de la création du fonds. Il n'y a pas un lien spécifique avec la France. C'est les hasards de la diplomatie.
C'est à la fois une question de hasard et pas de hasard. Enfin, l'année dernière, il y a quand même eu un prix Nobel économique français. Donc, comme c'est quand même une institution éminemment économique et financière... il y a une sorte d'expertise, je pense, qui est reconnue. Après, la directrice ou le directeur est élu en fonction de est nommé en fonction de ses compétences. Donc il y a quand même un process de désignation qui est en fonction des compétences aussi. Je ne l'explique pas plus que ça, hein. Je l'explique
et
pas...
Et vous êtes nombreux dans les équipes ou là, pour le coup, c'est équilibré par rapport... Il y a un vrai éclectisme des nations au sein de...
Il y a un vrai éclectisme des nations. Comme je disais tout à l'heure, il y a 150 nationalités qui sont présentées. Dans la division, dans l'équipe dans laquelle je travaille, qui est une équipe de 25-30 personnes, on est... deux Français.
D'accord.
Voilà. Donc c'est à peu près ça. Et le reste, les autres collègues viennent vraiment du monde entier.
Ok. Alors ouais. Je reviens aux missions du FMI. Vous parliez tout à l'heure donc d'intervention dans les pays, de zones géographiques. J'imagine qu'il y a une distinction assez nette entre ce que peut faire le FMI dans des pays considérés comme riches et dans des pays considérés comme pauvres. Peut-être commençons par les premiers pour peut-être prendre plus de temps ensuite sur les seconds. Dans des pays considérés comme riches, comme par exemple la France, est-ce que le FMI intervient? Est-ce que le FMI existe dans nos vies de Français?
Alors, le FMI n'intervient pas en France. C'est le verbe intervenir est trop fort. Mais la mission du fonds, elle est globale. Donc, elle va être... ça veut dire que le fonds va avoir une relation avec chacun de ses 189 membres, dont les pays riches, dont la France. À travers quel type de mission? À travers sa mission première, qui est une mission de... finalement de surveillance. C'est tâter le pouls de tous les pays qui sont membres du FMI. Parce que le mandat, encore, j'y reviens...
Ah oui, c'est d'assurer la stabilité, finalement.
La stabilité, ouais. Exactement. Financière globale, afin qu'il y ait de la croissance partout et partagée. C'est ça, le mandat. Donc l'idée, c'est que pour assurer cette stabilité, il faut surveiller constamment.
D'accord, mais ça veut dire qu'éventuellement, le FMI peut, à un moment, alerter un pays comme la France, lui dire que ceci est bien, ceci n'est pas bien, lui faire des recommandations. Ça arrive, ça?
C'est fait d'une manière régulière, en fait. C'est ce qu'on appelle l'article 4,
ouais.
Qui est en fait l'équipe pays qui s'occupe de la France, par exemple, mais qui s'occupe de l'Allemagne, comme qui s'occupe des États-Unis ou d'autres pays dits riches, d'autres économies avancées, rencontre les autorités, en général le ministre des Finances et d'autres ministères du pays, de façon régulière, donc ça peut être 2-3 fois par an, et puis produit un rapport qu'on appelle le rapport d'article 4, dans lequel le FMI produit une analyse de la situation économique et financière du pays.
Et prend position dans ce cas-là.
Et prend position, oui. Et prend position et dit ça, on pense que ça va dans le bon sens.
Et ça, il le fait pour les 189 pays chaque année.
Pour les 189 pays chaque année.
Okay. Et généralement, ce sont des recommandations qui ont été au préalable vues avec les interlocuteurs des pays, ou est-ce qu'il y a parfois des clashs à la suite de ces recommandations? Il y a des surprises, des trucs qui ne se passent pas forcément bien?
Je peux parler de l'expérience que j'ai eue quand j'ai reçu moi-même des équipes du FMI quand j'étais... au cabinet du ministre du Travail, par exemple. Donc l'équipe du FMI était venue voir non seulement le ministre des Finances, mais aussi le ministre du Travail de l'époque. Et on les avait reçus et on avait discuté des politiques qu'on menait. Ouais. Et ensuite, y avait un compte rendu et une analyse propre qui avait été faite du Fonds monétaire. Évidemment, les mandats sont pas les mêmes. Le mandat du ministre du Travail est pas le même que le mandat de l'équipe FMI qui s'occupe.
Du coup, vous n'étiez pas forcément tout à fait d'accord, pour le dire diplomatiquement.
C'est pas une question de. Oui, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est une question d'horizon. Les horizons sont pas les mêmes. D'équilibres qui sont pas les mêmes, qui sont des équilibres nationaux pour l'un et des équilibres internationaux pour l'autre. Donc évidemment, tout n'est pas forcément.
Et vous en aviez tenu compte ou c'est pas des choses qui. De toute façon, ça n'a pas de caractère coercitif, j'imagine, pour le gouvernement qui reçoit l'avis.
Non, ça n'a jamais de caractère coercitif. Le fonds recommande, analyse, mais ça n'est. C'est ensuite au gouvernement de s'en saisir.
D'accord. Si on bascule sur la question des pays en voie de développement, donc évidemment, c'est plus pour ça que le FMI tend à défrayer la chronique sur la question, notamment ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. On a des souvenirs, effectivement, de pays, je pense à l'Argentine ou autres. Mais finalement, on ne comprend pas bien, nous, ici, comment ça se passe. C'est quoi cette histoire de programme d'ajustement structurel ? Pourquoi ça a été mis en place ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, finalement ?
C'est une deuxième mission, en fait, du FMI. Il y a la mission de surveillance et il y a la mission d'intervention. Donc là, c'est
de l'intervention.
Là, c'est de l'intervention. Mais le fonds intervient quand il y a des crises, en fait.
Okay.
Parce que la stabilité devient instabilité, parce que des pays sont en situation de plus pouvoir payer leurs dettes et leurs crédits. Pour certains pays, c'est parce que la dette est pas soutenable. Pour d'autres pays, c'est pas parce que la dette est pas soutenable, mais c'est parce qu'il y a une crise des créditeurs et que donc il y a une crise de change, par exemple. Et là, ça devient très compliqué.
Donc, c'est les crises d'ordre financier, on est d'accord. Et le FMI intervient en tant que. Là, finalement, la nature de son intervention, ça va être quoi ?
Si je peux prendre une analogie, la meilleure analogie qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme quand on a un pays a une sorte de crise cardiaque, voilà, et donc il faut un défibrillateur, quoi. Donc le FMI arrive avec son défibrillateur, mais il n'arrive pas qu'avec son défibrillateur.
Le défibrillateur, c'est quoi ? C'est des crédits, c'est de l'argent, c'est ça,
c'est des lignes de crédit. Okay. Et quand un pays est en programme, ça veut dire que le FMI lui prête de l'argent.
D'accord. C'est la définition du programme,
C'est la définition d'être en programme, c'est que le Fonds monétaire international lui prête de l'argent.
D'accord.
Quand on est un pays pauvre, c'est en général des prêts longs et à taux quasiment zéro. Donc c'est une sorte de ressource et d'appel d'air pour le pays qui se retrouve dans l'impossibilité de se refinancer à l'extérieur ou alors dans la possibilité de se refinancer à l'extérieur mais à des taux qui sont des taux usuriers.
Donc là ça relance la machine.
Ça relance la machine. Donc là on intervient, on agit, on défibrille. Mais ce qui souvent est mal perçu ou perçu de loin et
comme une ingérence
indue, c'est qu'il n'y a pas que la partie défibrillateur, il y a aussi la partie ensuite qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas. Et les crises cardiaques, elles arrivent parce que on est humain et parce que on boit, on fume, on fait pas de sport.
D'accord, donc c'est traiter les causes derrière.
Voilà, on mange trop gras et on mange trop sucré.
Et là, sur la question de traiter les causes, dans ce cas-là, j'imagine par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont les équipes pays qui vont aller sur place et qui vont définir avec les gouvernements des programmes d'action.
Exactement.
Mais alors c'est, et peut-être c'est ça.
Toujours en lien avec les gouvernements. Voilà, c'est-à-dire que c'est jamais.
Mais par contre, si j'ai bien compris, c'est ça qui parfois fait figure un peu d'ingérence, c'est que le FMI va conditionner la poursuite de ses prêts au respect des recommandations, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
C'est selon le principe que il y aura pas d'amélioration s'il y a rien qui change.
Ouais, j'ai compris ça.
Donc du coup, on peut vous sortir de l'ornière, c'est sûr. On peut faire un appel d'air, mais si les causes sont toujours là et on s'attaque pas aux causes, alors le médicament fera pas d'effet.
Donc là, on a une équipe pays hein, qui va du coup passer du temps, j'imagine, sur place, discuter avec les gouvernements, mettre en place des recommandations, un programme d'action. Ensuite, comment ça se passe ? C'est le conseil d'administration dont on parlait tout à l'heure qui va valider le programme, qui va entériner la mise en route de ce programme-là ?
Absolument. Donc okay. C'est l'équipe pays sera sur place, discutera avec toutes les parties prenantes, son interlocuteur principal étant toujours le ministre de l'économie et des finances, mais évidemment il va aller voir les autres acteurs du concernés du gouvernement, plus largement aussi hein, souvent il y a des interactions avec les syndicats, avec d'autres parties prenantes.
Donc en sortant de la seule sphère financière finalement.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, les recommandations que peut faire le FMI et auxquelles il faudra souscrire pour continuer à bénéficier des prêts, elles peuvent avoir un caractère financier, mais elles peuvent aussi avoir un caractère, je ne sais pas, toucher, moi, j'en sais rien, la protection sociale, le code du travail, ça peut être très vaste comme nature de recommandation.
C'est tout ce qui a trait au système macroéconomique d'un pays. Donc ça peut être effectivement très vaste.
Ça peut être l'État providence, ça peut être les retraites.
Vous parlez de la protection sociale. Donc la protection sociale qui englobe à la fois les politiques d'assistance sociale et les politiques d'assurance sociale. Donc ça peut être les retraites comme vous le mentionnez. Mais ça peut être aussi les revenus minima. Typiquement, dans un programme du FMI, les minima sociaux sont sanctuarisés.
Ok. Ça fait partie de la doctrine, en fait.
Ça fait partie des garde-fous qui sont mis dans les programmes en disant... mais parce que, partant du diagnostic, que c'est pas par les minima sociaux ou c'est rarement par les minima sociaux que les crises arrivent. Donc, si on demande de faire des ajustements, les programmes n'incluent pas le fait de sabrer les minima sociaux.
D'accord. On va refaire
une sorte de sanctuarisation de ces dépenses-là.
On va refaire une petite pause juste avant. En termes de contrôle, c'est-à-dire de capacité à évaluer finalement si le programme est mis en œuvre et si les objectifs sont atteints, c'est toujours les mêmes, c'est ces fameuses équipes pays qui vont avoir ce rôle aussi de suivi et de contrôle et d'évaluation ?
Oui, tout à fait. Okay. C'est les équipes pays qui vont sur place, qui monitorent et qui ensuite rendent compte au conseil d'administration pardon du fonds.
D'accord.
Voilà.
Régulièrement. Très bien. On fait une nouvelle pause musicale, cette fois avec la chanson Suburban Noir de Arcade Fire et on se retrouve tout de suite après.
it provides us in the tribes. You grew your hair so I grew mine. You said the past won't rest until we jump the fence and leave it behind. My old friends, I can't remember when you cut your hair. I never saw you again. Now the cities we live in could be distant stars. And I search for you in every passing car.
Retour dans la fabrique politique sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, on discute du Fonds monétaire international, le FMI. On décrypte son fonctionnement avec Delphine Prady, qui est économiste au FMI, qui est en direct de Washington. Alors, on discutait des programmes d'ajustement structurel, des programmes d'intervention du FMI, qui font débat, qui engendrent régulièrement l'hostilité d'une partie des citoyens du monde. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que finalement le FMI est dominé par une idéologie, une vision du monde qu'on qualifierait de libérale, capitaliste? Est-ce que c'est aussi uniforme que cela, ou est-ce qu'il y a au sein du FMI des débats, des courants de pensée? Voilà, c'est cette question-là que je voulais vous poser, Delphine Prady. Est-ce que il y a une subtilité dans les approches, et finalement, est-ce qu'il y a presque au sein du FMI, au sein de son conseil d'administration, des moments où des points de vue s'entrechoquent et où il y a des arbitrages à faire?
Pour répondre à ça, il y a... J'ai envie de revenir au mandat. Donc le mandat, c'est assurer la stabilité financière globale, donc planétaire. Le mandat, dans cette vision un peu résumée, il implique que le Fonds monétaire international, il est multilatéral. Donc il adhère au multilatéralisme. Il va promouvoir le libre-échange, la fluidification de tous les échanges, mais de tous les échanges, c'est des échanges monétaires, des échanges d'informations, des échanges de bonnes pratiques aussi, et aussi des échanges humains. Donc il y a vraiment cette adhésion au multilatéralisme.
Donc plutôt là, contre toute forme de protectionnisme, d'une certaine manière, il est plutôt dans cette mouvance d'ouverture, quoi.
D'ouverture. Mais ça veut dire aussi que le discours s'adapte par rapport à il y a 70 ans. Ça veut dire que dans cette perspective d'ouverture et de toutes les ouvertures, il y a un discours qui aujourd'hui promeut la libre circulation des personnes et dit que cette libre circulation des personnes, elle doit passer aussi par le respect de l'intégrité des personnes et le fait que quand il y a des migrations, ces migrations sont positives.
Ça veut dire que le FMI prend presque parti sur la question actuelle des migrants, de ce point de vue-là ?
Sur la question des migrants... Alors, des migrants, le FMI personnifie jamais, mais sur cette dimension d'ouverture, oui, il va se positionner. Donc, le FMI réfléchit aussi aux enjeux qui sont des enjeux actuels. Et l'enjeu du climat, par exemple, fait peser sur les économies, sur la stabilité financière, sur la stabilité économique du globe, des pressions très fortes.
Des risques, finalement.
Des risques pour tout le monde.
Et donc la FMI, dans sa mission de stabilisation, va prendre en compte ces risques climatiques, finalement.
Va prendre en compte ces risques climatiques, va les observer, les analyser et donner des recommandations.
D'accord, ok.
C'est pour ça que la taxe carbone, par exemple, on en parle, on la promeut.
D'accord. C'est vrai que c'est pas intuitif parce que au départ, quand vous parliez d'ouverture, de libre circulation, on voyait plutôt une vision très libérale au sens laisser libre le marché et finalement une vision anti-régulation, j'allais dire. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le FMI ne serait pas contre telle ou telle forme de régulation de l'économie ?
Le FMI s'inscrit dans une forme de fabrique des biens communs globaux. Donc si on considère que certaines régulations sont des biens publics globaux, alors le FMI s'inscrit dans cette production-là. Donc typiquement... encore une fois, le mandat, c'est la stabilité pour que tout le monde puisse avoir un bout du gâteau de la croissance, si croissance il peut toujours y avoir. Donc c'est ça le mandat du fonds. Et s'il y a des biens publics globaux qui assurent ça, alors le fonds va y participer.
D'accord. Et je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même, après je ne vous demande pas de révéler des secrets, hein, mais il y a quand même des tensions, des débats, des visions du monde qui, pour réussir à atteindre cet objectif, s'entrechoquent au FMI, est-ce que tout le monde est vraiment sur la même ligne, en fait ?
En interne, il y a des débats. Ça peut pas échapper quand il y a 150 nationalités qui sont, qui sont dans une même institution. C'est par essence, en fait, c'est par création qu'il y a forcément des visions différentes du monde et c'est très bien. Moi, j'ai participé récemment à la rédaction d'un produit du FMI qui s'appelle le Fiscal Monitor, qui est un produit qui est revu par tous les gouvernements, enfin lu par les gouvernements sur les politiques budgétaires. Et celui auquel j'ai participé, c'était sur les inégalités.
D'accord.
Et donc, comment on peut faire pour avoir de la croissance moins inégalitaire ? Quel est le lien entre les inégalités et le fait qu'il y ait de la croissance ou pas dans les pays ? Et finalement, me dire, s'il y a un peu moins d'inégalités, c'est aussi bon pour la croissance et la stabilité mondiale. Et donc, là-dedans, j'ai participé et j'ai participé plus spécifiquement à la rédaction d'un papier sur le revenu universel de base.
D'accord.
Et le revenu universel de base, c'est pas vraiment consensuel.
Ok. Et donc, vous avez fait face à des, des pour, des contre, des questionnements sur ce qu'on écrit, ce qu'on n'écrit pas. Enfin, il y a eu du débat du coup derrière cette.
Il y a eu du débat en interne et qui m'a fait moi aussi revoir mon analyse qui peut être d'abord une analyse assez ethnocentrée et ensuite revoir un peu ce qui se passe parce que le revenu universel de base, on en parle en Europe, mais il s'expérimente aussi dans certains pays d'Afrique comme au Kenya. Largement promu dans des économies qui sont pas des économies riches ou avancées. Donc moi, évidemment, ça m'ouvre. Et donc, il y a eu du débat, il y a eu de la construction et il y a eu de la production d'une analyse là-dessus.
Et finalement, il y a eu une prise de position. Par exemple, on peut dire que le FMI est pour ou contre le revenu universel. Ça se situe à ce niveau-là ou ça reste de l'analyse avec un peu d'argumentaire pour, un peu d'argumentaire contre et chacun se fait son idée.
Alors, je pense que ça pourra très peu être à ce niveau-là. Entre pour et contre, ça pourra jamais être aussi manichéen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on prend toujours en compte les contextes et conditions spécifiques de chacun des pays. Donc, partant de là, on peut pas tirer de généralisation, sauf à mon avis sur des problématiques qui sont des problématiques là éminemment mondiales, parce que finalement, on n'a qu'une planète, sauf sur le climat. Typiquement, quand je dis il faut taxer les produits pétroliers, là c'est quelque chose d'assez unanime.
Alors unanime au sein du FMI, mais on imagine bien que les pays membres et y compris ceux qui siègent au conseil d'administration n'ont pas forcément tous voté comme un seul homme pour taxer à fond les produits pétroliers. J'imagine qu'il y a des enjeux géopolitiques derrière qui viennent un peu contrebalancer cette recommandation.
C'est
les mêmes qui siègent d'un côté et qui ont des enjeux économiques.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un exécutif qui est assez indépendant dans sa production d'analyse et dans sa production de recommandations.
Mais après, quand chacun revient chez soi, il y a un législatif.
Le fond est assez cohérent dans son staff et dans son management et dans ses prises de position publique. Et ça se passe de façon assez transparente. Mais c'est comme de dire que un historien ou un sociologue sont complètement déconnectés de la réalité du monde et voient la Révolution française de façon tout à fait objective. Non.
Et puis ça questionne effectivement la place des experts, comment ils sont associés au processus de décision derrière. Et effectivement, c'est toute une histoire. Globalement, cette mission que s'est donnée le FMI au départ, de veiller à la stabilité...
Qu'on lui a donnée.
c'est une mission qui vous paraît... aujourd'hui plutôt bien rempli, plutôt moyennement, et quelles sont les perspectives finalement ? Vous pensez que le FMI a de beaux jours devant lui ou que si des choses se tendent d'un point de vue géopolitique, c'est des institutions qui peuvent être menacées un jour ?
Il y a deux questions dans votre question. Il y a la question, est-ce que le Fonds monétaire international a aujourd'hui un rôle à jouer? Quand on voit l'appel de l'Argentine, par exemple, au fonds, très très récemment, qui a demandé à rentrer en programme et qui rentre dans l'un des plus gros programmes du fonds, de façon assez consensuelle, enfin, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une... Il y a un vrai, de la part de l'Argentine, il y a une sorte de véritable prise de conscience que c'est important à ce moment-là de faire appel au fonds, parce que sinon ça peut aller très très vite dans la dégringolade de la crise. Mais on sent que cette crise, des pays émergents, je pense à la Turquie, je pense à d'autres grands émergents. On sent qu'en ce moment il y a une sorte de fébrilité et que le fonds monétaire, avec sa capacité financière actuelle, a un rôle à jouer.
Okay.
Donc il y a cette utilité assez de court terme que je pense vraie. Après, la pertinence du fonds à plus moyen terme, long terme, elle va se jouer sur est-ce que le fonds est capable d'anticiper des grands problèmes structurels et des grandes solutions structurelles aux problèmes qui se posent. Mmh. J'ai parlé du problème du climat. Mmh. Le fonds s'est également positionné récemment sur des questions qui sont vieilles comme le genre humain, mais de promotion du travail féminin et de la place de la femme dans les sociétés et dans l'économie globale, et que le Fonds monétaire international se positionne sur une question comme ça, c'était pas attendu en 1944.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que là où finalement le Fonds joue son avenir, c'est sur une capacité éventuellement à sortir du tout financier et aller regarder du côté d'enjeux très macro, qu'ils soient sociaux, économiques, climatiques, pour que sa mission de régulation soit efficace face à des défis qu'il n'avait pas imaginés au départ, quoi.
Bah, c'est de, en ayant en tête l'objectif de stabilité financière, se dire, et non seulement de stabilité financière, mais aussi de promotion d'une croissance qui inclut tout le monde, c'est quels sont les enjeux qui touchent à ça, et finalement ouvrir un peu la seule politique monétaire et la seule politique bancaire, et se dire c'est plus complexe que ça, et tout impacte ça. L'enjeu des inégalités, c'est aussi ça. C'est de se dire, s'il y a trop d'inégalités, alors oui, je crée des conditions de crise.
Ok. Eh bien, on va devoir bientôt conclure puisque le temps passe. Merci beaucoup, Delphine, de nous avoir accordé tout ce temps. Juste pour donner un petit aperçu concret, donc là, vous êtes à Washington. Une journée type pour vous en tant qu'économiste au FMI, ça ressemble à quoi? Alors, j'imagine qu'il y a des journées à Washington, j'imagine qu'il y a des journées à l'étranger. Mais voilà, pour donner un tout petit aperçu aux auditeurs de à quoi ça ressemble de bosser au FMI.
Alors, une journée à Washington, c'est déposer ses enfants à la crèche et ensuite aller au bureau. Et là, il peut y avoir plusieurs choses. Il y a de la production analytique. Donc, en ce moment, par exemple, je travaille énormément en lien avec les Nations Unies, là, pour le coup, sur les objectifs de développement soutenable de 2030.
D'accord. Donc là, c'est des études à caractère économique.
Caractère économique, d'accord. Exactement. Et donc de la production de savoir.
Okay,
okay. Il y a aussi beaucoup de revues internes, parce que c'est des processus très collégiaux.
Et, donc vous regardez ce que font les autres et les autres regardent
ce que vous faites. On regarde ce que font les autres, ce que font les équipes pays, et on donne notre avis.
Okay.
Et c'est du soutien aussi aux équipes pays quand ils le demandent.
Et sur le terrain, alors que vous êtes amené à voyager, à aller voir un petit peu ce qui se passe. Par exemple, quand vous avez travaillé sur le revenu universel, vous êtes allé voir au Kenya comment ça se mettait en place ou des choses comme ça?
Non, là, pas à ce moment-là. Nous, on intervient sur la troisième et extrêmement importante fonction aussi du FMI, qui est... je vais reprendre un anglicisme terrible parce que le mot ne me vient pas du tout en anglais, mais c'est ce qu'on appelle du « capacity building ».
Construire des capacités, on va dire ça.
Construire des capacités, voilà. Ça prend un tiers du budget du FMI, donc c'est colossal. Et c'est en fait, à la demande des gouvernements, des ministères, des finances, c'est d'aller dans les pays et de les accompagner dans leur plan de développement. Alors moi, je fais du budgétaire, typiquement.
Donc ça veut dire qu'en tant qu'expert, vous allez guider ou contribuer à guider un pays sur comment mieux structurer sa gestion budgétaire.
Exactement. D'accord. Donc ça passe par l'exemple. Donc le fonds monétaire est une mine d'exemples. Donc on peut dire, voilà ce qui s'est fait dans tel pays. voilà ce qui s'est fait là et ça n'a pas bien marché, donc c'est peut-être pas à refaire.
Donc ça, cet appui, cette expertise qui envoie des experts comme vous un peu partout, vous dites que ça représente un tiers du budget du FMI. Donc
ça représente quasiment un tiers du budget du fonds monétaire. C'est une activité qui, en soi, est extrêmement demandée. Enfin, il y a une véritable demande des gouvernements là-dessus. Et finalement, c'est normal. C'est un peu comme si le fonds monétaire avait une source de savoir.
Consulting gratos, quoi.
Est-ce
que c'est gratos, c'est la question. Enfin, est-ce que ça dépend des contributions des uns des autres?
Non, ça dépend vraiment des charges de travail des départements.
D'accord. C'est-à-dire que, il n'y a pas de contribution complémentaire pour obtenir un soutien de ce type-là.
Okay. Non, c'est intéressant. C'est on y va parce que les États sont membres et contribuent à travers le fait d'être membre. Mais la seule contrainte pourquoi on n'ira pas alors qu'un pays aura demandé, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, en fait. Aller en mission, ça prend du temps, c'est extrêmement exigeant et c'est normal. Enfin, je veux dire, le niveau d'exigence est à la hauteur des attentes des gouvernements, mais c'est la seule contrainte, ce serait une contrainte physique.
D'accord. Dernière pause dans l'émission avec une chanson de Danger Mouse qui s'appelle Black. Ensuite, une chronique, la fameuse chronique Pendant ce temps à Veracruz, et on se retrouve un instant avec Delphine Prady.
Touch the walls of the city streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I've never asked why. Cast down, it was heaven sent in to the church. No intent to repent on my knees, just to cry. He's coming to me.
Vous êtes toujours dans la fabrique politique, c'est l'heure de la chronique Pendant ce temps à Veracruz. J'ai essayé de vous trouver un article qui décale un petit peu le propos par rapport au FMI et qui parle de la Banque mondiale, tout en illustrant ce qu'on se disait avec Delphine Prady, l'importance de ce qu'on appelle en anglais le monitoring, c'est-à-dire la surveillance que font ces institutions des pays auxquels ils viennent en aide, et l'importance pour ces pays de répondre aux objectifs et de remplir, de cocher les cases des indicateurs de la Banque mondiale, en l'occurrence, ou du FMI, pour travailler avec eux, obtenir des financements de leur politique. Cet article, il date du mois de septembre, là, du 15 septembre 2018, et il est tiré d'un magazine que je recommande chaudement, qui s'appelle Jeune Afrique. Il est signé de Victor Béranger. Gouvernance, politique économique, réforme structurelle, la Banque mondiale a rendu public le 12 septembre son classement de la qualité des politiques et des institutions des pays africains, classement utilisé pour répartir les fonds de l'Association internationale de développement, qui est son guichet destiné aux pays les plus pauvres. Ce rapport explique que la qualité moyenne des politiques et des institutions des pays d'Afrique subsaharienne est restée globalement stable par rapport à 2017. Il faut savoir que cette évaluation se compose de 16 critères relevant des compétences des décideurs politiques. Ces critères sont regroupés au sein de 4 familles, la gestion économique, la gouvernance, les politiques structurelles et les politiques contre l'exclusion sociale. Le classement, donc, il est utilisé pour déterminer la répartition des ressources de l'Association internationale de développement, qui est la filiale de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres. Alors, l'article mentionne ensuite le score des différents pays. On a par exemple le Rwanda qui a un score de 4, suit ensuite le Sénégal, puis le Cap-Vert, le Kenya, la Tanzanie. Note que les pays très dépendants aux ressources minières et naturelles sont en difficulté puisque les cycles des prix des matières premières se sont inversés et les prix ont baissé. Il montre aussi d'autres cas de pays où la gestion de l'économie s'est améliorée, par exemple en Gambie ou au Ghana, cite le rapport. Voilà pour cet article qui souligne encore une fois la précision du monitoring, de la surveillance des pays et l'importance pour ceux-ci de suivre les recommandations de leurs bailleurs financiers. De retour dans la Fabrique politique, c'est la fin de l'émission. On était aujourd'hui avec Delphine Prady pour parler du Fonds monétaire international. Merci beaucoup, Delphine.
De rien, merci à vous.
Belle journée à Washington, il fait beau ?
Il fait très moche.
Ah bah, il fait très beau ici à Grenoble. On vous souhaite quand même une très belle journée et merci encore pour vos réponses.
De rien, merci.